Décodeur passe l'été avec Marie-Claire Maison. C'est vrai que dès que le soleil brille plus fort, on a envie de faire son sac et d'aller voir ailleurs si on y est. Et ça tombe bien, dans le dernier numéro, la rédaction a étoffé ses bonnes adresses d'hôtel. Le Quinta da Comporta, vous connaissez ? Le Barn, à 1 heure de Paris ? Le Loupinet, à Saint-Tropez ? Découvrez des hôtels aussi dingues qu'inspirants qui nous ouvrent leurs portes pour une parenthèse enchantée. Bonne lecture ! Bienvenue sur Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc et à chaque nouvel épisode, j'invite à mon micro un architecte ou un designer, une marque reconnue ou émergente, un entrepreneur ou un influenceur, quelqu'un que vous allez connaître ou pas, mais qui dans tous les cas va nous parler déco. Son parcours, son métier, son quotidien, son univers, ses goûts, on saura tout. Enfin, j'espère. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être là pour ce rendez-vous déco. Pour ceux qui écoutent pour la première fois, bienvenue. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Pour un épisode de juillet, je trouvais ça joli de rencontrer Camille Soulérolle et Marie Venditelli qui ont créé Invincible Été. Ce nom plein de promesses est une marque française, 100% artisanale, qui s'appuie sur la technique photo du cyanotype. N'ayez pas peur de ce mot, on va tout vous expliquer, pour créer des pièces uniques en bleu et blanc à partir de végétaux séchés. Des herbiers d'un nouveau genre et un art très particulier, à la fois technique et poétique, auquel j'ai eu la chance d'assister un après-midi de juin lors d'une séance de travail entre Camille et Marie, qui se connaissent depuis quelques années, elles vont nous raconter. Aujourd'hui, elles sont au Chac, un nouveau lieu incroyable en plein cœur de Paris. Un concept inédit dans une ancienne imprimerie de la maison d'édition Calman Levy, avec un espace de restauration, un coin cosy pour le café, des salles pour travailler ou organiser des réunions, et même un super studio de podcast dans lequel nous sommes aujourd'hui pour justement écouter Camille et Marie nous raconter leur histoire et leurs petits secrets, j'espère. Bonjour Marie, bonjour Camille.
Bonjour Hortense.
Bonjour Hortense.
Alors, on va attaquer dans le vif du sujet tout de suite pour bien comprendre. Donc, j'ai parlé de cyanotype. Qu'est-ce qu'un cyanotype ?
Alors, un cyanotype, c'est une photographie, en fait. C'est une technique qui a été inventée dans les années 1840 par un astronome anglais qui s'appelait Herschel et qui s'est aperçu qu'en mélangeant deux produits, du citrate d'ammonium ferrique et du ferricyanure de potassium, il obtenait une solution photosensible. Grâce à cette technique, il a pu inventer une sorte de photocopie d'objets qu'il posait sur cette solution. Et on va vous expliquer un petit peu comment ça se passe et un petit peu la technique que l'on emploie.
Donc c'est de la photo.
En fait, c'est exactement de la photographie, mais c'est une photographie du tout début de l'invention de la photographie. C'est une photographie sphérique. En fait, cette technique-là, elle a été mise au jour par surtout une botaniste anglaise qui s'appelait Anna Atkins et qui s'est aperçue qu'en utilisant ce cyanotype, elle pouvait avoir l'empreinte exacte de la fleur qu'elle avait récoltée. Avant, un herbier était fait de dessins, d'images, d'interprétations des botanistes. Et là, elle avait la représentation exacte de sa plante. Et donc, on va vous expliquer un petit peu comment on peut obtenir ces résultats.
Ouais. Alors, vous, comment vous l'avez découvert, cette technique ?
Alors, je reprends le micro. Moi, c'est Camille, associée à Marie, la plus formidable des partenaires au monde. C'est vrai. Et en fait, moi, j'étais en Grèce il y a 3 ans, au mois d'août, et j'ai un ami artiste américain qui est venu me rejoindre sur une petite île et qui est venu avec de la poudre blanche. Et il m'a dit, Camille, j'ai un truc pour toi, on va s'amuser comme des fous. J'ai ouvert la boîte, je lui ai dit, mais Eric, je ne prends pas de drogue. Et il m'a dit, t'es vraiment une idiote, c'est du cyanotype. Je lui ai dit, mais du cyano quoi ? Voilà, et tout a démarré. Donc, il m'a initiée à cette technique. Sous le soleil de la Grèce, on faisait la solution photosensible la nuit, on travaillait le jour, on s'amusait comme des fous, on faisait des ateliers en famille avec les copains. Et je suis revenue après à Paris en septembre. Comme je suis journaliste de déco, j'ai fait maison et objets et je me suis dit, mais comment ça se fait que personne n'ait jamais pensé à faire un projet, entre guillemets, commercial et de le présenter à maison et objets. Le projet est né comme ça. L'idée, je l'avais. En fait, il me fallait un associé. Et là, ça a été absolument merveilleux parce que ça a été de rencontrer Marie, mais de re-rencontrer Marie. En fait, Marie, on s'est rencontrés quand j'avais 20 ans et elle 27 ans. Donc, c'était... Hortense, vous le dire, on est très, très jeune. Mais... voilà. Et en fait, on ne s'est jamais quittés. On est toujours restés amis. Marie est dans l'édition, moi aujourd'hui dans la presse. Et on a fait un déjeuner en avril, il y a 2 ans maintenant. Et j'ai dit à Marie, Marie, j'ai un projet, mais je cherche une associée. Et elle m'a dit, moi. Et je lui ai dit, mais t'es prête à faire des cyanotypes? Elle m'a dit, des cyanos quoi? Je lui ai expliqué et elle m'a dit, je le fais avec toi. Et l'aventure s'est lancée et ça fait plus de 2 ans.
Mais au début, c'était un petit plaisir, un délire entre guillemets, où il y avait une ambition dès le départ?
Non, il y avait vraiment une ambition dès le départ parce qu'on avait envie de se retrouver sur un projet qui pouvait comme ça se développer et puis surtout remettre un petit peu l'artisanat au milieu de la scène. C'est-à-dire que moi, je suis beaucoup devant mon ordinateur. C'est vrai que Camille est plus dans la prod, mais retrouver comme ça un projet en duo et surtout quelque chose qui soit une technique qui soit exactement la même qu'il y a pratiquement 200 ans, on trouvait que c'était quelque chose de génial. Et surtout, le résultat pour nous a été totalement magique.
En fait, ce qu'il y a de très amusant dans ce projet et dans notre association avec Marie, c'est qu'en fait, c'est assez rare de pouvoir monter une marque, entre guillemets, où on maîtrise tous les process. Et nous, c'était notre idée, c'est-à-dire que l'idée, c'était de maîtriser tout. De tout faire. Et en fait, en vrai, on est quand même toutes les deux dans assez pointues, je ne sais pas, mais en tout cas, on connaît un peu le monde de la déco. Et il n'était pas question de monter une marque et de produire des choses à l'autre bout du monde. En fait, ce qui est très amusant dans ce projet, c'est qu'en fait, on maîtrise tout. C'est-à-dire qu'on maîtrise la technique et on le fait. En fait, c'est-à-dire qu'on est à la fois au four et au moulin. On a monté cette structure, on crée notre compte Instagram, mais on produit chaque pièce en fait. Chaque pièce est faite, on découpe le papier, on prépare nos papiers, on les vend à Maison Objet et en fait, on maîtrise notre process de A à Z. Après, il y a un truc même qui est très amusant, mais on y reviendra, j'imagine, c'est qu'on a créé notre outil de production. Mais donc voilà, donc c'est vrai qu'il y avait ce côté artisanal et aussi dans le côté artisanal, il n'y a pas d'intermédiaire en fait. On ne fait pas des bijoux et on ne sous-traite pas des pièces à tel artisan et tout. Les pièces... on les imagine dans notre tête, on a créé notre herbier pour pouvoir travailler et après on travaille et chaque pièce qui est en vente, c'est une pièce, c'est un petit peu un petit bébé de Marie et moi.
Mais c'est un vrai travail, du coup vous dites, mais vous avez déjà des vies bien remplies, comment vous organisez?
Parce qu'on est un peu deux psychopathes de travail. Et aussi parce qu'on s'amuse beaucoup. C'est un projet qui est entouré de soleil à tout niveau. On y prend quand même beaucoup de plaisir. C'est un travail de chien, c'est énorme. Ça nous prend beaucoup d'heures et beaucoup de temps. Mais en même temps, on a eu, grâce à ce projet, des rencontres totalement folles, des associations qu'on n'aurait jamais pu avoir autrement, des projets magnifiques. Et c'est quelque chose d'extrêmement solaire qui maintenant nous anime quand même vraiment. Quoi.
Et à quel moment vous avez senti que ça démarrait, que ça plaisait? C'est avec Maison et Objet?
Oui, vraiment. C'était le premier Maison et Objet où on est allé. Alors, la fleur au fusil... il faudrait qu'on vous explique un petit peu comment c'est né. Parce qu'on s'est vu donc en avril... Et il fallait qu'on commence à prévoir des pièces pour septembre. Et surtout, s'inscrire à Maison et Objets, c'est pas en septembre. Il fallait s'inscrire je crois que c'était 15 jours après notre rencontre. Donc ça a été un peu rock'n'roll. Mais voilà, quoi. Et on a commencé à produire.
Vous vous souvenez de votre premier client?
Ah ben, je crois que c'était les types de. Ah oui, c'était. On avait fait des tissus aussi. Et c'était des Suisses. Des Suissesses qui sont venues et qui ont acheté pratiquement tous les tissus d'un coup. Et après, on a eu deux grands gaillards anglais qui sont venus nous visiter et on disait, ils nous disaient, ah, c'est super, c'est chouette, ça nous intéresse vraiment. Nous, on ne savait pas trop et ils nous ont sorti leur carte et c'était Selfridges à Londres. Bon, on s'est dit, ah, peut-être qu'il y a peut-être quelque chose finalement, ça doit plaire quand même à des gens. Et voilà, c'était... Oui, après, le bon marché est passé et c'est là qu'on a commencé effectivement à voir un petit peu qu'il y avait peut-être un avenir dans le cyanotype.
Nous, on voyait le potentiel qui est à la frontière un petit peu artistique et déco. Après, on est toujours un peu seul dans sa tête. Et en fait, c'est vrai que Maison et Objets, bon, moi, la veille, d'un seul coup, je n'ai pas dormi. Je me suis dit, non, mais attends, mais je suis complètement zinzin, c'est beau dans ma tête. Tout le monde va se rendre compte que c'est affreux et on ne va rien vendre. J'ai embarqué cette pauvre Marie dans l'aventure, ça va être un échec retentissant. Bon, l'argent, il est perdu, ce n'est pas très grave, tant pis. mais ça va être une telle désillusion pour elle, quoi. Et en fait, c'est vrai que le deuxième jour, en fait, on avait remboursé le stand. C'est-à-dire que les gens s'arrêtaient sur notre stand, les gens nous achetaient des pièces, partaient avec. Et c'est vrai que, voilà, on a eu des grands noms de la déco qui se sont arrêtés. Et on s'est dit, OK, en fait, on trouve ça beau, mais on n'est pas toute seule, quoi. Donc, ça a été un peu, on a été rassurés de ça. Mais c'est vrai que la veille, on était quand même un peu, genre, d'un seul coup, mais est-ce qu'on n'est pas complètement zinzin ?
En fait, il faut préciser qu'effectivement, ce ne sont que des pièces uniques. Parce que cette technique fait qu'on doit préparer nos papiers à l'avance avec cette fameuse solution photosensible. Et chaque coup de pinceau est un coup de pinceau totalement unique. Donc, on le fait la nuit avec des petites lampes. Et on ne voit pas tout à fait bien ce qu'on fait. Donc, on applique cette solution sur notre papier, qui est un très beau papier pour aquarelle, donc qui arrive à boire le mélange. Après, on le fait sécher totalement dans le noir. Et quand on est prête le lendemain, on prépare notre machine qui va nous permettre de reproduire les rayons du soleil. On pose notre papier qui donc a été préparé la nuit précédente. On pose nos végétaux dessus. Et là, on va les mettre sous les lampes UV pendant 5 minutes. Donc ensuite, quand on sort le papier qui est resté dans cette machine que l'on a fabriquée avec les végétaux dessus, on rince entièrement le papier. Toute la solution qu'on a appliquée disparaît et comme par magie, le bleu apparaît. C'est-à-dire que tout ce qui a été touché par les UV devient bleu et tout ce qui a masqué les UV reprend la couleur du papier, donc devient blanc. Visuellement, on a ce mélange comme ça, ce duo de blanc et de bleu, un bleu complètement dingue qui est du bleu de Prusse pur. C'est exactement la solution qui est utilisée pour créer cette couleur. Et c'est vrai que là, il y a un petit côté magique auquel... Oui, Hortense, vous avez pu assister.
C'était dingue. C'est toujours ce bleu-là. On obtiendra toujours ce bleu de Prusse.
Oui, il existe des produits, mais alors pour le coup, qui sont absolument totalement chimiques et presque instables, qui pourraient créer du bleu ou du rouge, mais on avait quand même décidé de ne pas utiliser du bleu, du vert ou du rouge, pardon. Mais on avait décidé de ne pas, utiliser ce type de produits qui sont beaucoup trop difficiles à manipuler. Et le bleu est une couleur tellement universelle qui plaît aux hommes, aux femmes, aux enfants. Il y a quelque chose de totalement addictif avec ce bleu. Là, on a fait un énorme panoramique qu'on a installé dans un lieu très joli qui s'appelle chez nous Campagne, dans le Perche. On a recouvert un mur entier de papier peint qu'on a réalisé à partir de nos pièces uniques en numérique. Et là, on rentre et on est enveloppé littéralement de ce bleu. Voilà.
C'est vrai qu'il y a ce bleu, il y a aussi toute la composition qui fait toute la beauté de la photo, je dirais. C'est réfléchi, ça ?
Oui, en fait, il faut qu'on vous explique, parce que c'est vrai qu'on est sur un podcast et que nous, c'est un projet très visuel. En fait, pour faire des cyanotypes, il faut des plantes. Et en fait, nous, en amont du projet, c'est-à-dire que quand on a décidé avec Marie, en avril, il y a 2 ans, de faire le projet, en fait, la première chose, ça a été de constituer un herbier. Il y a aussi quelque chose de très important dans cette technique, dans le cyanotype, c'est qu'on n'est pas sur une histoire, contrairement à la photo classique argentique, on n'est pas sur une histoire d'agrandissement. On est à échelle 1. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on vend un tirage avec une fougère qui fait 1,10 m, c'est qu'on a dans nos herbiers une fougère qui fait 1,10 m. Si on a dans nos herbiers, dans nos cyanotypes, s'il y a un tirage avec du muguet, on va avoir du muguet. En fait, on est dans la réplique exact de la plante. Il n'y a pas d'agrandissement. On a 3 formats pour le moment. Et en fait, ces 3 formats nous ont obligés à constituer 3 herbiers différents. On a un herbier qui fait format 3, on a un herbier qui fait 56-76 et on a des très grands herbiers qui font 76-106 cm. Donc là, on commence à être vraiment sur des choses un peu étonnantes, quoi. On a moins l'habitude de voir ça. Je veux dire, faire sécher une branche, par exemple, d'érable japonais de plus d'un mètre... Bon, on commence à être dans des très belles pièces. Donc, il y a tout ce travail en amont de préparer les papiers, de les faire sécher, d'accord ? Et le lendemain, quand on est prêt à insoler, c'est-à-dire à révéler, à travailler ce papier et à le faire réagir avec des UV, en fait, on va les piocher dans nos herbiers. Et en fait, c'est un peu à la manière d'un poème. On va choisir des mots pour faire un poème, où on va choisir des plantes dans nos herbiers pour créer une composition. Alors, on peut décider d'être sur des choses très simples, je ne sais pas, moi, d'être sur 2 coquelicots et 1 brin de blé, mais on peut aussi s'amuser à faire des bouquets baroques, très 18e, où on mélange différentes essences de plantes. On va avoir du végétal, mais on va avoir du floral. C'est-à-dire qu'on va mélanger des fleurs avec des branches d'arbres, avec des graminées, Et on va avoir des compositions comme ça, un peu de jardin sauvage. Donc en fait, il y a aussi tout ce travail, entre guillemets, de composition. Et c'est vrai que notre travail avec Marie, en fait, notre expertise, on est un petit peu comme deux petites pots de Nutella, c'est beaucoup d'expérience où on a l'habitude de concevoir des choses. Donc en fait, c'est vrai que ces compositions, on les fait assez librement, quoi. Et c'est vrai que voilà, souvent, on s'en sort pas si mal, quoi.
Il y en a qui rendent mieux que d'autres ?
Alors, en fait, bien sûr, il faut savoir que dans le cyanotype, on va avoir des pleins et des vides. Par exemple, si j'ai une fougère, je vais avoir des choses très détaillées parce que la fougère est très ciselée. Il y a beaucoup de pleins, beaucoup de vides. Donc, en fait, les UV vont essayer de venir grignoter et vont dessiner le plus de détails possible. Si je décide de mettre une feuille de chêne, non, pas de feuille de chêne, une feuille de marronnier, par exemple, qui fait 15 cm, je vais juste avoir une énorme masse blanche. Donc en fait, on a appris avec tout ce qu'on a expérimenté. De toute façon, ce projet, il est quand même très empirique puisque on s'est initié toute seule. On s'est rendu compte qu'il y avait des plantes où on se disait oh, ça va être formidable, et puis c'était horrible. On a fait un test, par exemple, avec de l'eucalyptus rond. Bon, ben, on a eu comme une ribambelle de pommes de terre, quoi. Donc maintenant, on sait, mais on n'a jamais fini d'expérimenter. Mais on sait qu'il y a des choses qui marchent. On a essayé les algues. Bon, ben, jusqu'à maintenant, ce qu'on a testé n'a pas donné. On sait qu'avec du corail, ce serait sublime, il faut qu'on essaye. En fait, on commence un petit peu à comprendre ce qui va marcher. Ce qu'on n'arrive pas encore vraiment à comprendre, c'est les histoires de transparence. C'est qu'en fait, il y a des coquelicots qu'on va faire sécher et on va récupérer de la transparence dans les pétales. Et il y a certaines plantes qui nous paraissent, ou certaines fleurs qui nous paraissent transparentes, et en fait, elles vont créer que du blanc.
Vous les trouvez où, les végétaux ? C'est des végétaux extraordinaires qui viennent de très loin, ou ils sont...
En fait, c'est mignon. En fait, ces histoires d'herbier, en fait, ils se constituent de plein de choses. C'est-à-dire, il y a ce que nous, on récupère. Donc, ça peut être des fougères qu'on va chercher dans la forêt. Ça peut être aussi...
On a toujours un sécateur dans la voiture.
Voilà, on a toujours un sécateur dans la voiture. Ça peut être, en fait, on a eu aussi des amis fleuristes qui nous ont dit « Ah, j'ai vu quelque chose de magnifique, je te l'ai mis sous presse. » Quand on a fait Jardin-Jardin, il y a un an, les gens venaient nous dire « Il y a une fille trop mignonne qui est venue et qui nous avait fait sécher des pavots. » Donc, en fait, ils s'alimentent, entre guillemets, de cadeaux qu'on nous fait, de ce qu'on glane. On a fait un événement avec une fleuriste très connue, la Marianne Guédin, par exemple, qui, à la fin de l'événement, elle a dit « Non, mais prenez tout. » En vrai, c'est des choses qu'on recueille, nous, des choses qu'on nous donne. On le crée d'une manière un peu aléatoire, en fait. On ne se dit pas « Tiens, on va faire toutes les variétés de fougères et puis après, on va passer à toutes les variétés d'eucalyptus. » Il se constitue un peu de nos rencontres. C'est vrai que là, évidemment, il y a eu la saison des coquelicots. On a fait beaucoup d'herbiers de coquelicots. Voilà. Et c'est vrai que c'est aussi la belle saison. C'est aussi le nom de la marque, bien sûr. C'est l'été et on est dans la pleine floraison des plantes et tout ça. Donc, c'est vrai que c'est un moment pour nous de récolte. Mais ça se fait, on part en week-end. Là, on est revenu du Perche. J'ai hurlé sur la bande d'arrêt pour que mon mec se mette sur la bande d'arrêt d'urgence. Parce qu'en fait, j'ai vu des fleurs de carottes et je me suis dit, on ne sait jamais, ça peut toujours nous servir. On n'en a plus beaucoup. Voilà. En fait, c'est un projet qui nous accompagne tous les jours. Hein.
Vous faisiez des herbiers avant, il y a un grand retour quand même, on voit beaucoup d'herbiers aujourd'hui, il y a une vraie tendance, comment elle s'explique ?
Alors en fait, moi j'ai toujours fait des herbiers, c'est une façon un peu d'immortaliser la nature. C'est aussi prétexte à une balade, tu sais, il y a un texte magnifique qui est sorti sur le fait de ramasser des coquillages, qu'en fait ça mettait dans un état méditatif, il y a tout un article là, en ce moment, dans un magazine anglais, qui raconte à quel point c'est presque une expérience philosophique et méditative, et bien en fait, dans le fait de faire un herbier, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que d'abord, quand on fait du cyanotype, on ne voit plus jamais la nature comme on la voit avant. C'est-à-dire qu'on la voit avec des pleins et des vides. On la voit avec des ciselés, on voit tout ça. Et après, c'est une excuse en fait aussi pour aller se balader, pour aller ramasser. Moi, j'adore les feuilles de chêne, par exemple. Je ne peux pas m'empêcher d'en ramasser, de leur faire des petits yeux, de faire des petites familles comme ça. Mais c'est assez génial en fait d'aller glaner des choses. Et surtout, l'herbier, en fait, il permet de garder les plantes. Ce qui est génial avec le cyanotype, c'est que pour les botanistes, ça a été la révolution. Mais ça a été la révolution pour deux raisons. C'est-à-dire qu'en fait, avant l'arrivée du cyanotype, il y avait des naturalistes, comme Buffon, qui décrivaient les plantes et qui travaillaient avec ces dessinateurs qui dessinaient la plante. Donc ça, c'était une vision qui était quand même très subjective. C'est plutôt comme ça, c'est plutôt cette couleur et tout ça. Il y avait à l'époque des herbiers. Donc on avait une description de la plante, on cueillait la plante. Il y a plein d'herbiers du 18e qui sont encore présents, sauf que c'est très fragile. Et la différence, c'est que le cyanotype est beaucoup moins fragile qu'un herbier. Le cyanotype, c'est une photo. Si vous gardez une fougère 200 ans dans votre armoire de famille, en vrai, vous allez ouvrir le livre dans 200 ans, vos arrière-petits-enfants, il n'y aura plus de fougère. Mais il y aura le cyanotype. Donc c'était cette avancée qui, en fait, a compensé la fragilité de l'herbier. Mais c'est la même histoire, en fait.
Le cyanotype, donc, c'est une technique photo, donc, où souvent on parle de chambre noire. Vous avez une chambre noire, en fait, vous, tout à l'heure, Marie, vous en parliez un peu.
Ben non, parce qu'en fait, tout se passe à la lumière. En fait, la chambre noire pourrait être utile dans une histoire de développement photographique. Alors, ce n'est pas du tout cette technique-là. On applique le produit la nuit, ça c'est sûr, puisqu'il est photosensible, il ne faut surtout pas qu'il voit les UV. Mais la révélation se fait dans de l'eau claire, hein, rincée en plein jour, juste quand on a terminé. Après les 5 minutes d'insolation, le papier est plongé dans l'eau et là, toute la technique est stoppée, l'insolation est stoppée et l'image est fixée à jamais. C'est vraiment tout simple. Donc en fait, on fait beaucoup d'ateliers et c'est là qu'on voit vraiment l'intérêt de tout le monde et ce côté totalement magique de la révélation.
La technique d'insolation.
Quand on s'est vu avec Camille, on s'est dit, bon, alors on va faire des petits papiers qu'on va vendre, etc. Puis on dit, oh, ce serait quand même pas mal si on avait des tailles un petit peu supérieures. Quoi. Si on fait du A4, ça va vite être limité. OK, donc on s'est dit, mais comment on va faire? Au soleil, c'est hyper instable, c'est trop compliqué. Bon, bah, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va fabriquer une machine pour faire nos cyanotypes, même en plein hiver, parce qu'il ne va pas toujours faire beau. Mais oui, mais comment on va faire? Parce que qu'est-ce qu'on prend? Qu'est-ce qu'on utilise? Donc, Camille a essayé de se renseigner de son côté, moi de mon côté. Camille est allée voir hein, des gens qui vendaient des UV pour les serpents. Mais qu'est-ce que vous avez comme serpent? Non, en fait, ce n'est pas pour les serpents. Donc, voilà. Donc, on a réussi à avoir quelques noms comme ça de fournisseurs. Et puis, bon, j'avoue que j'ai un mari qui est très, très bricoleur. Et puis, on a eu rendez-vous chez Camille. On s'est dit, voilà, il faut absolument qu'on invente notre outil de travail et cette machine. Camille partait en Inde avec des amis et elle m'a dit, bon... Au revoir, à dans 15 jours avec la machine. Voilà. Donc, en fait, le challenge, c'était de fabriquer une très grande machine pour faire des grands cyanotypes de plus d'un mètre en 15 jours. Et donc, voilà, donc, j'ai mis mon cher époux à la tâche et il a réussi à nous sortir quelque chose. Ça s'allumait quand on est arrivé chez Camille le jour de l'essai. On savait que les UV marchaient, mais alors on ne savait pas grand-chose d'autre. Camille avait passé la nuit à préparer des papiers avec son fameux ami Marc qui l'avait initié et qui a eu la gentillesse de venir nous aider pour les premiers. Et puis voilà, on a ouvert le tiroir, on a posé notre papier, on a posé nos végétaux, on a allumé, on a mis 5 minutes, 6 minutes, 7 minutes, on ne savait pas trop. Et le premier truc qu'on a sorti, et là, on était tellement contentes, on est allé rincer dans le jardin et puis on a vu apparaître ce bleu et on s'est dit, purée, ça marche quoi. Et c'était vraiment une grande aventure.
Ce qui est très amusant, parce qu'on a fait hurler de rire les gens ce week-end dans le Perche en leur racontant ça, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte qu'on est très habitué à utiliser des outils qui existent. Donc, au début du projet, moi, je me suis dit, bah, je vais aller sur Internet. Je vais acheter une machine à insoler. En fait, ça n'existe pas. Il existe des petites machines. Hein, je vous dis d'ailleurs, si ça vous intéresse de vous initier, n'hésitez pas. Il existe des petites machines pour faire des petits formats. Mais en fait, nous, en l'occurrence, on voulait faire des grands formats. Bien sûr, nous, ça nous amusait d'être sur des belles pièces, quoi. Cette histoire-là de se rendre compte que quelque chose n'existe pas, et ben en fait, je ne sais pas, ça doit être mon caractère un peu zinzin ou celui de Marie, on s'est dit, si ça n'existe pas, il faut l'inventer. Donc, ce qui paraît surréaliste, en fait, surtout que moi, je ne sais pas tenir un clou et un marteau. Voilà. Ce que je trouve très drôle a posteriori, c'est que pas à un moment donné, on a renoncé. On s'est dit, ben, s'il n'y a pas, on va le faire. Et on n'a pas du tout pensé que c'était impossible, en fait. C'était assez fou, d'ailleurs, de dire ça, parce qu'au final, la machine est très complexe. On nous a demandé depuis les plans de la machine, autant vous dire qu'on ne les donne pas. En fait, cette machine, les deux machines, puisqu'on a deux formats, et tout ce procédé, nous, personnellement, comme on l'a inventé, on l'a breveté, on l'a déposé à l'INPI. Donc, c'est très amusant. C'est comme si on voulait, on voulait faire du tissage de fil de fer et on invente un métier à tisser pour le fil de fer, quoi. Mais c'est vrai qu'il y avait un côté où... On n'a pas douté, quoi. En fait, on était tellement portés par cet enthousiasme autour du projet. Il y a eu tellement, et c'est vrai, Marie a raison, en fait, c'est un projet qui est très solaire, qui est assez incroyable, de toutes ces soi-disant coïncidences qu'il y a eu. Enfin, en fait, c'est un projet qui est très amusant, qui est un peu, parfois on appelle ça un peu l'alignement des planètes, quoi. Des choses un peu magiques se sont produites. Comment on a réussi, comment Philippe, le mari de Marie, a réussi à fabriquer cette machine. Alors, on a vu des informations d'ingénieurs, d'électriciens, on a vu des conseils et tout. Mais comment ça a marché du premier coup? C'est hallucinant, en fait. Comment on a réussi à régler l'intensité des UV, à avoir la bonne taille des UV, à les mettre à la bonne hauteur du papier. Si on reprend l'histoire dans l'autre sens, c'est hallucinant. Mais heureusement, on ne s'est pas posé toutes ces questions-là. On a juste essayé et il y a eu de la magie, c'est que ça a marché du premier plan. Mais je pense qu'il y a plein de gens peut-être qui essayent de le faire et qui n'y arrivent pas, quoi. Mais par exemple, c'est pareil, le papier, il y a plein de papiers qui réagissent très mal. Et nous, en fait, on est tout de suite passé par un... Moi, je connais assez bien le monde de l'édition. Donc, on est passé par deux papiers, d'ailleurs, au début. On en a commandé à un fournisseur, mais on n'est pas, évidemment, on n'est pas dans des circuits classiques. Bon, on ne dira pas les noms, hein, quand même, on garde un peu nos secrets. Et en fait, on a essayé ce papier-là. Et ça a marché du premier coup. Ben, ça veut dire quoi, marcher du premier coup? Ben, ça veut dire que quand même, c'est des papiers, c'est des grands formats. On les trempe dans des bassines d'eau, quoi. Je veux dire, essayez avec un papier journal, vous allez comprendre. Prenez un bout de papier journal, mettez-le dans l'eau, ou prenez un feuille de carnet, mettez-le dans l'eau, vous allez voir, il va se déliter, en fait. Et ben, en fait, ça a marché. Nous, on a trouvé ça normal. Puis après, on a essayé, un ami de Marie nous a livré des papiers, ça nous amusait d'essayer. On s'est dit, oh, génial. Mais non, ça ne marchait pas. On a eu une espèce de la chance du débutant un peu dans toutes les étapes. Mes objets, c'était pareil. On a eu un super emplacement. Mais je crois que c'est porté par... que c'est porté par une énergie sincère. En plus, on est un peu toutes les deux... On est en même temps assez professionnels dans nos métiers et tout. Et en même temps, je trouve qu'on est assez fraîche, quoi, dans notre vision du projet, dans notre approche des gens. Non, je pense à Marinette.
Mais c'est un travail qui est très artisanal. Si jamais vous avez une énorme commande, comment vous faites?
Alors, je vais vous expliquer ce qui nous est déjà arrivé. Après le premier maison et objets, bon, bah voilà, on a eu quelques commandes, etc. Et puis, je crois que c'était au moment de Noël, juste fin décembre, je reçois un petit coup de fil d'une dame qui me dit, voilà, je vous ai vu à maison et objets, je suis belge, on a une chaîne de boutiques de vêtements. Donc là, pour le 15 janvier, j'aurais besoin de 100 pièces uniques dans les trois formats, tout mélangé de tous les végétaux différents, etc. Donc, autant vous dire qu'on n'avait pas produit depuis un petit moment, donc on avait zéro stock. Donc là, il a fallu, eh bien, en plein hiver, créer 100 pièces uniques. Alors, autant c'est sympa en plein été, autant en plein hiver, c'est quand même un sacré challenge parce que avec la doudoune, la nuit, mettre le produit, après rincer à 1 degré dans le jardin des formats géants, bon, en tout cas, c'était le baptême du feu. On s'est défoncé et bien sûr qu'elle a eu sa commande, etc. Et elle a eu dans les temps. Mais on a eu un peu froid, je dois dire. Mais c'était génial aussi. On est allé la livrer en Belgique directement. Et puis, ils ont fait vraiment une très, très, très jolie déco dans leur... Je crois qu'il y avait une cinquantaine, une quarantaine de boutiques réparties entre la Belgique, l'Allemagne et la Suisse, je crois. Enfin bon, c'était super. En fait, c'est ce que disait Camille. On le fait de manière assez légère, mais en même temps hyper sérieuse, quoi. Voilà. On ne se prend pas du tout au sérieux, mais on le fait vraiment super sérieusement.
Est-ce que vous faites la même chose, justement, sur vos profils?
On fait tout à deux, en fait. On est chacune d'un côté de la machine, on pose les plantes ensemble et on rince ensemble.
Il n'y en a pas une qui est plus technique et l'autre qui commercialise?
Non,
ou
non.
Nous ne sommes ni techniques ni commerciales.
Là, ça, il faut
être clair. Nous cherchons, on passe une annonce. Non, en fait, déjà, on est extrêmement complémentaires, ceci dit, parce qu'on fait la même chose... sur quand on fait les pièces. Après, on n'a pas les mêmes énergies, Marie et moi, et on n'apporte pas la même chose au projet. Mais je ne sais pas avec qui d'autre j'aurais pu le faire que Marie. J'apporte des choses que Marie, elle, ne lui sont pas faciles. Elle fait des choses en 2 secondes qui, pour moi, me prendraient 2 mois. Et c'est vrai que c'est assez génial d'être complémentaire comme ça. Après, on est, ni elle ni moi ne sommes commerciales. Après... elle et moi, on a beaucoup d'expérience. Donc, en fait, on compense, je pense, un peu ce manque d'école de commerce, ce côté marketing, business, bon, qu'on n'a pas du tout. Mais ceci dit, en fait, si on voit le parcours qu'on a fait depuis 2 ans, on a un ami dont c'est le métier, qui a regardé ça d'un œil d'expert de start-up. Et il nous a dit, ouais, les filles, génial, votre start-up. On a dit, start-up de quoi? Il dit, non, mais oui, en fait, vous avez réussi, vous avez fait du chiffre. Vous avez des belles rencontres, vous avez des projets. Si je devais investir, j'investis demain. Et je me suis dit, mais comment c'est possible? Moi, je suis une bille. Hein. Marie, ce n'est pas non plus ses compétences. Mais ce qui est vrai, c'est que ce côté, entre guillemets, amateur est compensé par de l'expérience humaine et professionnelle qui va faire que si on va à un rendez-vous, par exemple, je ne sais pas, pour faire une mission pour une très belle marque, et ben en fait... on va appeler des gens un peu pour nous aider à établir le devis, parce qu'on a quand même un réseau un peu étendu. Et puis, on va avoir un rendez-vous plutôt sympa. Et puis, au final, on va le faire le truc et ça va bien se passer. Donc, Après, en fait, la marque va nous rappeler pour refaire autre chose. Notre manque d'expertise marketing commerciale a été compensé, en tout cas pendant ces deux dernières années, par une notion de l'expérience et un certain professionnalisme qu'on a toutes les deux. Hein, t'es d'accord,
oui,
Marie?
Oui. N'hésite pas à passer beaucoup de temps. Hein. C'est tout ce qu'on a obtenu, c'est aussi beaucoup, beaucoup de notre temps. C'est de notre temps libre parce qu'on a chacune un métier qui nous prend énormément de temps. On a des métiers largement à plein temps, voire plus. Et ça, on le fait encore en plus. Mais avec une telle énergie, on n'a quand même souvent pas vraiment l'impression de travailler. Et c'est quelque chose qui nous apporte d'autres choses que notre
métier. Justement, qu'est-ce que ça vous apporte que vous avez toutes les deux des métiers déjà très créatifs et ça, c'est une activité qui l'est tout autant. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher?
Là, on a toutes les rencontres qu'on ne pourrait pas avoir d'habitude. Dans un milieu professionnel, on gravite souvent autour des mêmes choses et des mêmes sujets. Bon, c'est vrai que Camille rencontre beaucoup plus de gens que moi puisqu'elle est journaliste et que c'est aussi son travail. Mais c'est des personnes qu'on n'aurait jamais rencontrées autrement. Et c'est des retours qu'on a et de gens qui ne sont pas forcément professionnels parce que quand on fait des ateliers, on accueille tout le monde de tous les âges, de tous les milieux, de tous les domaines. Et là, on arrive à échanger avec des gens qui sont totalement incroyables. Et les marques qui viennent vers nous pour travailler. Enfin bon, tout ça, c'est des choses que, bien entendu, on n'aurait jamais eues.
On a toutes les deux, effectivement, des métiers créatifs et des métiers où on rencontre beaucoup de gens. Marie, beaucoup dans l'édition. Moi, étant dans la presse, effectivement, un truc un peu plus ouvert sur différents corps de métiers. Mais en vrai, pendant ces deux ans, on a rencontré des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés, ni elle ni moi. Je veux dire, quand on rencontre, par exemple, l'équipe du Muséum d'Histoire Naturelle qui possède des cyanotypes d'Anna Atkins, qu'on a une visite privée de ce lieu qui n'est ouvert que pendant la journée du patrimoine, avec les bibliothécaires qui sont folles de joie, les conservatrices, de nous montrer à nous, en privé, les travaux d'Anna Atkins dans cette bibliothèque magnifique. Je veux dire, c'est un cadeau de la vie, en fait. Si on rencontre un paysagiste magnifique, à Jardin-Jardin, un homme qui a un talent fou et qui vient nous dire « c'est génial les filles, j'aimerais bien qu'on en fasse, est-ce que je peux en faire un avec vous ?» Mais quelle rencontre géniale! On a rencontré des gens du luxe, vraiment de très très belles marques de haute couture française, des maisons d'exception, avec qui on a eu des rendez-vous mais formidables, avec qui on a fait des ateliers, avec qui on a ri, avec qui on a partagé, et en plus qui nous ont rémunérés et qui nous envoient un message en disant « Merci les filles, quel bonheur de vous avoir rencontrées !» Donc moi, par mon métier, je ne vais pas rencontrer ces gens-là. Et si je les rencontre, en tout cas, je ne vais pas partager avec eux une expérience créative. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, on partage une expérience créative. Soit on est sur un salon à Maison Objet et on va rencontrer des gens qui vont nous acheter des pièces. Mais là, on va effectivement avoir des rencontres avec des belles marques. On a été invité à exposer notre travail au Bon Marché pendant 8 mois. Je veux dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on a rencontré toutes les équipes du Bon Marché. On a rencontré les filles du merchandising. On a rencontré la responsable maison. Mais en fait, c'est des gens... On s'est régalé de les rencontrer. Donc, en fait, ça nous a permis de faire des rencontres humaines, d'avoir des échanges artistiques avec le monde des boutiques, avec le monde de la botanique, avec Jardin Jardin, avec le Muséum d'Histoire Naturelle, avec des gens des galeries d'art. On est dans une très belle galerie d'art à Paris. Donc, en fait, ça nous a ouvert des portes interactives, d'interaction, avec plein de gens très différents. Et ça, c'est follement amusant. Et aujourd'hui avec Hortense, donc génial.
Mais on a aussi du public qui vient nous voir, qui veut partager avec nous cette technique. Et en fait, l'avantage de cette technique-là, c'est qu'on peut s'en approprier très très vite. C'est-à-dire que c'est pas très compliqué à faire en réalité. Chaque résultat est très beau. Donc les gens qui ont peur d'être, qui disent « moi j'aimerais bien faire des choses créatives, j'aimerais bien être un peu artiste, etc. » et qui ont peur de se lancer, grâce à ça, grâce à nous, on les entoure, on les aide, on les encourage, ils font une pièce qui est super jolie. Et en fait, c'est pour montrer aussi, remettre un petit peu l'art au niveau de tout le monde. On a des prix qui sont super raisonnables. C'est le prix d'une photo classique qui elle-même est tirée à plusieurs exemplaires. Là, chaque pièce est totalement unique. Il n'y en aura jamais de pareil. Et même, c'est parfois un problème parce que si de temps en temps, on aimerait bien reproduire exactement la même chose, mais on n'y arrive jamais. On a mis un petit peu l'art au niveau de plein de gens, quoi.
En fait, c'est un projet qui est à la frontière entre artisanat et art.
Comment vous voyez l'avenir d'Invincible Été dans 2 ans, dans 10 ans, vous voyez où?
Ce projet, il nous prend du temps. Si on n'avait pas toutes les deux des métiers à côté, on mettrait les bouchées doubles et on pourrait faire beaucoup de choses. Là, on est un petit peu limité par notre temps, qui est un peu incompressible. Ce projet, il a trois axes, en fait, et ça depuis le début. Le projet, il est de vendre des pièces uniques, très bien, des cyanotypes, repartir de l'histoire de la botanique, de s'inscrire dans les traces d'Anna Atkins et de faire des herbiers cyanotypes et de vendre nos tirages uniques. Ok, ça, c'est depuis le début, c'est ce qu'on a fait à Maison Objet, c'est ce qu'on fait à travers les galeries d'art qui nous représentent. Et à travers notre site, on vend nos pièces. Après, il y a deux autres axes dans ce projet, et ça, c'est, enfin, tout ça, c'est très clair pour nous depuis le début, c'est qu'en fait, on a vendu des pièces et on s'est dit, mais on a vendu des choses magnifiques, des choses somptueuses et on ne les reverra jamais. Donc en fait, on est parti d'un constat qui était que quand on fait un workshop, c'est on va travailler 24 heures ou 48 heures et on va faire une série de pièces, un peu comme un potier hein, ou comme un céramiste, donc on va faire un... C'est pas nous, c'est pas au four, mais c'est dans notre machine à insoler. On fait des fournées de cyanotypes et les plus belles pièces, en fait, on les numérise en très haute def, en très, très, très haute def. Et ça nous donne, en fait, une banque d'images. Et c'est vrai qu'on est en train de constituer depuis 2 ans, je pense, la plus grosse banque d'images haute définition de cyanotypes. Des choses simples, des choses compliquées, des fonds, des couleurs. Ça, c'est le deuxième axe du projet qui est de donner lieu après à des collabs. Et ça, ça a déjà démarré. On a fait une collab avec la marque Aigle qui sort en Asie avec des parkas qui sont en train de sortir en Corée, au Japon et tout ça. Ça sort là en ce moment. Et on a une collab magnifique avec une très belle marque d'accessoires avec des foulards, des pochettes, beaucoup de très belles choses qui va sortir l'année prochaine. Donc ça, c'est la banque d'images. Et après, il y a un troisième axe auquel on avait pensé mais qui en fait se révèle être le plus monétisable. Quelqu'un du marketing nous dirait mais foncez dessus. En fait, c'est exactement ce que disait Marie, c'est les ateliers. C'est-à-dire que nous, au début, on ne s'est pas dit qu'on voulait faire des ateliers, qu'on voulait partager ça. On a fait notre machine, c'est notre outil, on produit. Mais on a présenté sur Jardin Jardin et on avait la machine. Et on a une deuxième machine plus petite. Et Jardin Jardin nous a dit, écoutez, nous, on aimerait bien que les gens aient une expérience. Est-ce que vous pourriez faire de la démonstration ? On dit, bah oui, on veut bien partager ça un petit peu, quoi. Sauf qu'en fait, ça a été l'émeute. Les gens faisaient la queue pendant 2 heures. Avec Marie, on n'a rien compris. On a mangé une pomme debout avec du jus de pomme qui tombait sur les cyanotypes, j'oublierai jamais. Marie, qui est quelqu'un de très sérieux, s'est mis à ricaner nerveusement à partir de 4 heures de l'après-midi. Moi, j'étais complètement à l'ouest. Je fumais clope sur clope à l'époque, j'ai arrêté depuis. On était azimutés. Et là, on s'est dit, non, mais alors là, je crois qu'il y a un gros marché. Donc en fait, après, on nous a beaucoup demandé de faire des ateliers. Beaucoup de marques, et d'ailleurs j'en profite pour les remercier. Après, concrètement, ça nous prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Donc pour l'instant, notre politique, et c'est sans aucune prétention, c'est de se dire on le fait de façon exclusive dans des lieux prestigieux autour d'une expo. Voilà, on va pas, c'est pas la foire fouille, on va pas aller faire la foire de Paris, et on n'est pas des. Sinon, j'ai l'impression de me voir comme une espèce de lutin de foire, c'est l'angoisse de rap carotte, je sais, sur les marchés. Donc en fait, l'idée, c'est de le faire, oui, si on est dans un cadre un peu magique, si c'est un prétexte pour que ce soit un moment un peu féerique. Voilà, Jardin Jardin, c'est parfait. Là, on était dans un endroit magnifique dans le Perche, dans un ancien prieuré avec des gens absolument déments et tout. Mais si on met quelqu'un dans le projet cette année, en fait, c'est ça qu'il faut développer.
Parce que concrètement, on vous trouve où aujourd'hui ? Là, un auditeur qui a envie de voir en vrai, et de, soit de participer à un de ces fameux ateliers, comment il peut être au courant ? Et s'il a envie d'acheter un cyanotype ?
On est représenté par une super galerie, deux filles formidables, Fanny Solé et Olivia Defayet, qui ont monté Willow & Grove. Voilà, donc ça, elles nous représentent notamment sur
que
Paris.
Que j'avais en voilà, mais oui, elles sont, juste elles sont parce super. Épisode et... 42, je crois, de Décodeur, je les avais bah rencontrées.
Voilà, c'est oui, vraiment oui. Deux filles super qui nous ont suivies depuis le début, depuis le premier Maison et Objets. Elles sont venues nous voir et bien sûr qu'on est totalement ravis de partager tous nos cyanotypes avec elles. Et elles font deux gros pop-up par an. Et on met toutes nos informations sur notre Insta, qui est donc invincible.été, et aussi sur le site internet. Et je pense que si c'est maintenu, on aura un gros événement en septembre ouvert au public au Jardin des Plantes. On verra. Enfin, toutes les infos seront dispo sur notre site. Mais bon,
je vous ai toujours pas demandé le nom d'Invincible Été. Ça vient d'où ?
Alors, en fait, ce nom, Invincible Été, c'est une phrase magnifique de Camus que j'ai découvert il y a longtemps. J'étais en reportage avec un photographe et je ne sais pas pourquoi on parle de ça, et il me dit cette phrase de Camus qui est « C'est au cœur de l'hiver que j'ai découvert l'invincible été que je portais en moi. Et cette phrase, je l'ai trouvée d'une force hallucinante parce que je me suis dit, en fait, moi, j'ai eu un parcours pas toujours facile et je me suis dit, mais il faut jamais oublier, même quand on a des moments de chagrin, qu'on a, chacun a en lui un soleil, quoi. Chacun a en lui une espèce d'été invincible, justement, une force de vie qui vient de l'enfance, qui vient de la résilience. Je me suis dit, mais c'est magnifique, faut jamais oublier ça, en fait. Faut jamais oublier qu'on a tous un invincible été. J'avais cette phrase dans un coin de ma tête et avec Marie, on cherchait le nom. Alors, on est passé par des choses monstrueuses. On était là, bah, évidemment, les Prussiennes, Bleu de Prusse, les Maubleus. Enfin, je vous dis n'importe quoi. Enfin, que des choses pas très jolies. Et je ne sais pas pourquoi. Je me souviens très bien, j'étais à la maison et j'appelle Marie et je dis, Marie, été invincible ou invincible été? Et elle m'a dit, c'est magnifique. Et mon mari, qui est dessinateur, était à côté. Il me dit, mais c'est magnifique ce nom. Mais c'est magnifique. Alors après, c'est génial parce que justement, on n'a pas fait d'école de marketing ni rien. Mais en fait, si on voulait faire du storytelling, on est dans un vrai storytelling. C'est-à-dire que nous, on a appelé cette marque Invincible Été parce que, en fait, c'est un projet que j'ai découvert en Grèce, sous le soleil de la Grèce, en plein été, avec un ciel bleu de dingue, une mer bleue de dingue. Et des végétaux verts que j'allais ramasser pour insoler des branches d'olivier, des branches de palme. C'était un projet très solaire. Cette invincibilité, c'est de dire, quand on est en hiver, en fait, quand on quitte septembre et qu'on s'embarque pour une année, en fait, en janvier-février, j'ai un ami qui appelle ça la traversée de l'Atlantique. Et on est au milieu de l'Atlantique. Et l'été derrière, en fait, on n'en a plus les bienfaits. Et l'été devant, il est très, très loin. Et là, on est au milieu de la mer. Et bien là, il y a un poster chez vous. Il y a un tirage chez vous d'Invincible Été. Et en fait, il y a un été qui a eu lieu, mais il y a un été qui vous attend quelque part. Et en fait, alors c'est des mots, c'est du storytelling, c'est génial. Mais en fait, c'est vrai. C'est comme ça qu'on l'a vécu. C'est comme ça que j'ai découvert le procédé. C'est comme ça qu'on vit la marque. C'est vraiment avec du soleil qu'on le fait. C'est vraiment avec de l'eau qu'on le fait. C'est vraiment un projet où on fait vraiment nos herbes en été. Donc en fait, il se trouve que le storytelling magnifique est totalement véridique. On n'a pas été obligé de l'inventer, en fait. Il est là. C'est vrai que c'est aussi un procédé où toutes les étapes sont belles. C'est-à-dire que l'herbier est magnifique. La couleur du papier qui est vert jaune avant d'être insolé, qui devient vert avec un vert complètement dense que tout le monde a envie d'arrêter mais qu'on ne peut pas arrêter et qui devient bleu. Le storytelling magnifique qui se fait tout seul en fait. C'est-à-dire que si on nous demande des photos de l'atelier, mais c'est un rêve en fait. Si on nous demande de venir participer à un workshop, c'est bluffant. Je ne sais pas comment vous dire. En fait, ce n'est pas comme si on était dans une tannerie quoi. Où à la fin, vous sortez un sac en cuir, c'est magnifique, mais vous avez pris une peau de bête, ça pue, c'est nettoyé, vous haïssez l'eau. Nous, l'herbier est dingue, les feuilles de papier sont jaunes, elles deviennent vertes, ça devient bleu, ça sèche, le bleu est très lumineux, d'un seul coup, il devient hyper dense, hyper profond. On a une chance énorme, c'est que ce projet à lui-même est un plan marketing, quoi. Mais ce n'est pas de notre fait, en fait. Tout ça, on l'a découvert au fur et à mesure qu'on a monté le projet, en fait. On s'est dit, les gens disaient, ah non, mais c'est beau, hein. Ah non, mais tout est beau, hein. Ah non mais c'est là. Donc on est là, ah ben oui, c'est vrai, tout est beau. Non, mais c'est une chance, en fait. Mais tout ça, ce n'est pas des choses qu'on a... Ça fait partie de la force du projet.
Vous avez des tableaux invincibles été chez vous ou vous saturez?
Alors, moi, j'en ai plein. J'ai tous les tirages et tout ça dans l'atelier. D'abord, parce que ça sert aussi toujours. Oui, on n'a pas dit ça, mais c'est très important. Si des gens sont à Paris et veulent nous rencontrer, en fait... Pour vraiment des rendez-vous avec des gens qui sont intéressés, en fait, on ouvre le showroom, on boit un café, un thé et les gens choisissent leurs pièces parce qu'il faut les voir. C'est mieux de les voir en vrai. Alors évidemment, quand on habite en province, on regarde les photos sur le site. Mais s'il y a vraiment un désir d'achat, après, sincèrement, on n'ouvre pas la porte de l'atelier pour un A3 parce qu'on n'a pas le temps. Mais si quelqu'un veut acheter une belle pièce, elle est toujours reçue de façon très chouette à la maison. À la maison qui est aussi atelier, à Paris, à République. Et il se trouve que, donc moi, j'en ai beaucoup. Et mes enfants... qu'ont tous fait des ateliers, en ont tous dans leur chambre.
Moi, j'en ai un peu dans mon bureau et dans la chambre de ma fille. Voilà. C'est un peu plus dur de les mettre dans mon salon parce que mes murs sont déjà très occupés. Voilà. Mais j'adore. À chaque fois que je les vois, je me dis, oh là là. Bref. En tout cas, ça apporte toujours cette espèce de... C'est un bleu qui est extrêmement rassurant, très enveloppant, très agréable à regarder et qui va vraiment avec tout. C'est un peu comme du jean. Les gens achètent et ça va partout, en fait. Et ça marche tout le temps.
Ça ressemble à quoi, Marie, chez vous, votre style déco?
C'est très, 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 très épuré. C'est blanc, kaki et beige et beaucoup de noir aussi. Il y a beaucoup, beaucoup de noir. chez moi. Et il y a quelques belles pièces artistiques parce que j'ai beaucoup acheté de tableaux, de sculptures, voilà, de choses qui sont un petit peu pointues.
Il y a des courants ou des créateurs ou des designers que vous aimez particulièrement ?
Bah, en fait, moi, j'aime bien le mélange. J'aime pas tellement... j'aime être dans un endroit qui est assez décoré, mais en même temps qui est quand même un petit peu cool. C'est pas trop apprêté non plus. Il y a beaucoup de plantes aussi, parce que quand même ça, j'adore. Et c'est là-dessus aussi qu'on s'est retrouvés avec Camille sur ce projet. C'est parce que j'ai vraiment un vrai amour du végétal, mais complètement. On s'en lasse absolument jamais. Voilà, donc j'aime beaucoup le vert, qui est vraiment une de mes couleurs préférées. Et par chance, ça va bien avec le bleu.
Et Camille ?
Je parlais ça avec mon mari, là, il y a genre 2 jours. Et je lui dis, mais tu sais, en fait, on n'a pas vraiment une maison. Mon mari travaille énormément, moi aussi, lui, il dessine. Et moi, je fais beaucoup de photos, je suis styliste et rédactrice déco. On a une maison qui est une maison de travail, en fait. Où moi, j'ai un immense atelier qui fait 45 mètres carrés, où il y a des trésors dans les placards, mais sinon, j'essaye de faire en sorte qu'il n'y ait rien parce que j'ai la tête pleine. C'est le contraire de chez Marie. C'est-à-dire que Marie, tout est fait pour le confort, avec un canapé somptueux, on est bien. Et nous, en fait, ma maison, elle est magnifique, elle est très jolie, mais elle est totalement inconfortable. Il n'y a pas de canapé, par exemple. C'est pas un endroit où on s'assoit, en fait. C'est un endroit où on est debout, c'est un endroit où il y a des bureaux partout pour travailler. Enfin, c'est un espace de... Je pense que je vis dans un espace de coworking, en fait.
Et c'est quel style ?
C'est beau. Non, c'est beau parce que j'ai fait faire ça par un architecte, Guillaume Tervert, qui est un mec très connu et très doué. Et c'est dans les revues d'écho. C'est très beau, mais en fait... Comme moi, je suis un peu envahie par... mais dans le bon sens, j'adore ça. En fait, moi, mon métier de styliste déco m'a guérie. En fait, j'adorais les objets. Et si je n'avais pas fait ce métier, en fait, je serais antiquaire ou brocanteuse parce que j'ai une passion totale pour les objets. Mais d'un herbier à un tableau, à un fauteuil. Donc, en fait, mon métier de styliste où je fais des mises en scène de déco m'a complètement guérie. Quoi. Je suis comme une styliste de mode. Au bout de 20 ans de fringues, en fait, elle a un jean et un t-shirt blanc. Quoi. Et ben, moi, en déco, j'ai rien parce que je suis vaccinée. Tous les objets qui me font rêver, je les fais vivre dans des images et après, j'en ai plus besoin. Donc, c'est un espace, oui, il y a une grande table pliante avec un ordinateur dans un grand espace en bois. C'est très beau, hein. Mais en vrai, le moment où vous voulez vous mettre dans un canapé pour être cool, là vous dites « Waouh, mais où est-ce qu'on se pose ?» Voilà, c'est assez drôle, hein, mais j'ai réalisé ça il y a 2 jours.
Et bien là, justement, ce sont bientôt les vacances. La maison idéale, elle ressemble à quoi, justement, pour être à la cool, pour être confortable et chillée?
En fait, le seul endroit où j'arrive à me reposer, c'est bizarre, hein, c'est quand je pars en Grèce parce qu'il fait tellement chaud, entre 2h et 5h, qu'en fait, je suis obligée d'être à l'abri et de bouquiner. Donc, c'est le seul truc qui est obligé de m'arrêter, en fait. C'est la force du soleil qui fait que non, je ne vais pas pouvoir aller me baigner parce que je vais cramer. Non, je ne peux pas partir faire une randonnée parce que je vais carboniser. Non, je ne peux pas aller faire le marché parce que je vais mourir de chaud. Donc, en fait, je suis obligée de lire à l'abri de la lumière. Et il fait même un peu trop chaud pour faire des cyanotypes.
Et Marie, votre maison idéale ?
Ma maison idéale, moi, je crois que c'est la maison de Soulage au bord de la mer, c'est-à-dire une grande lame en béton avec un peu de bois et vue sur la mer. Voilà. Et pas grand-chose dedans. Enfin, ça, c'est vraiment le rêve pour moi et la possibilité de ne rien faire, ce qui est aussi assez rare en ce qui me concerne.
Bon bah super, bah je vous souhaite de très bonnes vacances à toutes les deux.
Merci Hortense, vraiment.
Et à bientôt, au revoir Camille, au revoir Marie.
Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner à cette émission pour ne pas rater les prochains épisodes. Bien sûr, vous pouvez aussi le partager sur Facebook, Twitter, LinkedIn ou en story Instagram par exemple. Ça permet de le faire connaître à vos proches. Je suis Hortense Leluc et vous pouvez me retrouver sous le pseudo Hortense Déco ou via le compte Décodeur Podcast sur Instagram. Et si jamais vous écoutez sur iPhone via l'application Apple Podcast, vous pouvez aussi me laisser un commentaire, rubrique classement et avis, parce que plus j'ai de commentaires, plus Décodeur se démarque dans la jungle des podcasts, ce qui est très important pour moi pour me faire connaître encore plus largement et faire découvrir le monde de la déco au plus grand nombre. Voilà, merci et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.